Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, au fil des pages s'intéresse aujourd'hui aux mémoires d'un grand cancérologue, le professeur Maurice Tubiana. Il vient de publier aux éditions de Fallois « N'oublions pas demain ». Dans cet ouvrage, il évoque son enfance en Algérie, son arrivée en France à 18 ans, ses études à la fac de médecine, la guerre de 39-45 et bien naturellement ses années d'exercice comme cancérologue à l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif. Maurice Tubiana, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à Canal Academy, au cœur de l'Institut de France. Alors, comme je le disais, vous êtes cancérologue, vous étiez professeur de cancérologie et directeur de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Vous êtes bien sûr membre de l'Académie des sciences et également président honoraire de l'Académie nationale de médecine. Maurice Tubiana, pour parler donc de cet ouvrage qui nous vaut donc le plaisir de votre visite aujourd'hui, pourquoi avoir intitulé votre livre « N'oublions pas demain » ?
Parce que dans la vie actuelle, on est trop englué dans le présent. Et on essaye de trouver des remèdes à ce qui ne va pas aujourd'hui, au lieu de préparer l'avenir. On est à la fois affligé d'une nostalgie pour un passé qu'on mythifie. Car ce passé est horrible. Si on pense à ce qu'était la vie en France avant la guerre, on est saisi d'horreur. Il y avait 2,5 millions de chômeurs, comme aujourd'hui, et aucune indemnité de chômage. La famine était présente en France, comme aujourd'hui dans les pays du Sahel, les années où il ne pleut pas. Les enfants mouraient de tuberculose favorisée par la malnutrition. Il y avait des distributions des restes de la soupe des soldats devant les casernes, et des centaines, quelquefois des milliers de gens attendaient la distribution de cette source, de ces restes qui allaient leur donner à manger pour un ou deux jours. On n'imagine plus aujourd'hui ce que pouvait être cette vie, car en même temps il y avait le mépris, la haine, la méfiance entre les classes sociales, la méfiance entre les religions, et surtout ce sentiment de supériorité des uns ou des autres pour une raison quelconque, ce refus de toute mixité, de toute compréhension entre les groupes ethniques et religieux. Alors, il est certain que dans cette vie extrêmement difficile, la rationalité, la tolérance, la science me sont apparues comme un refuge. Et je pense qu'aujourd'hui, ou à nouveau pour des raisons extrêmement différentes, la France vit une période difficile, avec un sentiment de déclin, avec un sentiment qu'elle n'a plus la place qu'elle avait autrefois et auquel elle s'était habituée. La compréhension du fait qu'elle ne fait plus les efforts nécessaires pour maintenir son rôle à l'échelle du monde, tout cela crée un sentiment de malaise, et au lieu de réagir en préparant l'avenir, on se contente de se désoler sur le présent. Et vous me demandez pourquoi mon titre « N'oublions pas demain », c'est parce que le rôle de l'homme est de se projeter dans l'avenir et non pas de se complaire dans le présent.
Alors, dans votre avant-propos, Maurice Tubiana, vous expliquez que, à votre tour, je vous cite, « à mon tour, je cède à la mode si répandue aujourd'hui des mémoires ». Alors, pourquoi avoir, vous aussi, cédé à cette mode ?
Parce que j'ai l'impression d'avoir deux messages à lancer. Le premier message, c'est que l'avenir n'est pas écrit. Le destin n'est pas une fatalité. On peut lutter contre lui. On peut être maître de son sort. Mais il faut pour cela se battre et ne pas avoir une attitude passive résignée. La deuxième grand message que je voudrais faire passer, et qui est un peu le but de ce livre, c'est la grandeur de la France. Le progrès qui ont marqué le 18e, le 19e, le 20e, ont été entièrement dus à la rationalité et à la science. Si on regarde le niveau de vie, la durée de vie, la mortalité infantile, on s'aperçoit que tout cela a été complètement transformé grâce à la technique, grâce à la science. Je suis médecin, je prendrai des exemples dans la médecine. En 1900, l'espérance de vie était de 45 ans. Elle dépasse aujourd'hui 80 ans chez les Français. Nous avons gagné en 35 ans en un siècle. Et la vie continue à s'allonger de 3 mois tous les ans, ce qui est absolument prodigieux et fabuleux. En 1900, une femme de 40 ans était une vieille femme. Il suffit de lire Anatole France, ce que dit Anatole France de Madame Bergeret qui trompe son mari. Il dit « Elle avait 40 ans ». Un âge où depuis longtemps d'ordinaire on ne pense plus à ces choses-là, et elle trompait son mari. On ne dirait pas ça aujourd'hui d'une femme de 70 ans. Alors remontons un peu dans le passé, remontons jusqu'à Alfred de Musset et les Caprices de Marianne. Premier acte, scène 1 de Caprices de Marianne. Marianne arrive sur scène, éblouissante. Dans un petit coin, il y a Octave qui la regarde et qui lui dit « Marianne, vous avez 19 ans. Il vous reste 5 à 6 ans pour être aimé. 7 à 8 ans pour aimer vous-même et le reste pour prier Dieu. » La vie d'une femme était terminée à 28 ans. Et ça correspond bien d'ailleurs à la femme de 30 ans de Balzac, aux mœurs de la cour de Charles X, où, comme vous le savez sans doute, les femmes de 30 ans ne pouvaient se présenter à la cour que si elles étaient personnellement priées par le roi. Sinon, leur présence n'était pas désirée à la cour. Donc, la science, la médecine ont changé la vie humaine. Elles ont changé le niveau de vie. Elles ont changé la santé. Elles ont changé la pénibilité du travail. Et de tout cela, qu'est-ce que l'on déduit aujourd'hui? Une méfiance vis-à-vis de la science et vis-à-vis de la technique.
Alors, avant de parler de méfiance vis-à-vis de la médecine et vis-à-vis de la technique, qui est tout un pan hein, de votre livre, venons-en à la médecine, qui est donc votre sujet à vous, puisque vous êtes un grand cancérologue. Puisque vous parliez de rationalité et que finalement, ce destin, on se le construit, est-ce que vous avez construit le fait de devenir cancérologue et de travailler à l'hôpital Gustave Roussy, de connaître d'ailleurs Gustave Roussy?
C'est beaucoup plus important que ça. C'est beaucoup plus important que ça, ce qui s'est passé dans le monde, mais en particulier en France, entre, je dirais, 1948 et le début des années 50, c'est qu'on est passé d'une médecine entièrement fondée sur des intuitions, sur des souvenirs, qui était un art d'ailleurs, que certains réussissaient fort bien, et qu'on est passé de là à une science, car la médecine est aujourd'hui scientifique, fondée sur la science. Et que ce transformation prodigieuse qui s'est passée en quelques années a été le fruit d'un effort, car les vieux médecins n'aimaient pas ce changement. Ils aimaient traiter les malades en fonction de leurs souvenirs, ils répugnaient à l'idée de faire des essais cliniques sur les malades. Il répugnait à l'idée de mélanger la biologie et la médecine. L'homme leur paraissait un animal à part des autres animaux. Passer de la souris à l'homme était presque un sacrilège. Et en quelques années, on est passé de cette médecine qui était un peu celle d'Ambroise Paré. Ambroise Paré qui disait, vous le savez, « Je le pensais, Dieu le guérit ». L'homme était incapable de guérir les maladies. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de laisser la nature guérir les maladies. On est passé de cette attitude à une attitude tout à fait contraire. Non seulement on guérit les maladies, mais on cherche à les prévenir. Alors dans le domaine du cancer, puisque c'est le mien...
C'est votre domaine.
Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, au lieu d'essayer des traitements chacun dans son coin, sans échanger des vues bien précises sur les résultats, on s'est mis à travailler en équipe. On s'est mis à avoir des équipes où collaborer ensemble,
les médecins,
les chirurgiens, les chimiothérapeutes, les physiciens, les chimistes, les biologistes. On a fondé des stratégies qui n'étaient pas inventées au cas par cas en fonction des idées qui pouvaient vous traverser la cervelle en voyant un malade. On a fondé des stratégies logiques, comme on fait des stratégies dans la recherche en physique ou en chimie. Et c'est ça peut-être qui a été l'élément le plus important de ma vie, de voir sortir la rationalité sous l'art dans la médecine.
Et c'est ce qui vous a valu de traiter les cancers de la thyroïde et également les cancers lymphatiques, enfin les cancers des lymphes, de Schkin.
En effet, ça a été deux des grandes maladies sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Quand j'ai commencé à traiter des maladies, des cancers de la thyroïde, c'était au tout début des années 50, en 51, et à ce moment-là, quand un malade avait des métastases, il était considéré comme perdu, on ne le traitait même plus. Et de plus, quand on traitait un malade, les traitements étaient si mutilants que les sujets étaient devenus incapables de mener une vie normale. Et petit à petit, en utilisant de nouveaux moyens, en raisonnant, en analysant les séries que l'on traitait, en voyant qu'est-ce qui avait été des succès, qu'est-ce qui avait été des échecs, et comment l'analyse statistique permettait d'analyser ces succès et ces échecs, on est passé à la situation actuelle où plus de 80% des malades atteints de cancer de la thyroïde sont guéris, peuvent reprendre une vie normale, avec un coût qui apparemment est redevenu normal, et en plus retrouvent toute la joie de vivre, même si elles ont eu des métastases. Alors bien sûr, ce succès est assez unique dans l'ensemble des cancers, mais il est tout de même tout à fait symbolique de ce que l'on a pu faire dès les années 50. La maladie d'Hodgkin, l'histoire est un peu différente. La maladie d'Hodgkin, elle était considérée comme inexorablement mortelle. Or, comme vous le savez, c'est une maladie qui touche surtout les sujets jeunes, hommes et femmes, entre 20 et 35 ans, donc à un moment où la vie est précieuse et chère, et brusquement, le diagnostic de maladie de Hodgkin, ça voulait dire mort certaine à brève échéance. Et un médecin anglais, en analysant la série de malades qu'il avait traités à Manchester, s'est posé la question, est-ce que, sans le savoir, je n'ai pas guéri un certain nombre de malades? Et il a analysé sa série et il a montré qu'effectivement, un certain nombre de malades avaient des survies tout à fait normales et que c'était les malades qui avaient été traités de la façon la plus agressive. Alors il a publié un article qui a été un coup de tonnerre et tout le monde dans tous les hôpitaux se sont passionnés par la maladie de Hodgkin. Et j'ai eu la chance, une fois encore, d'être au bon endroit au bon moment, et nous avons pu lancer des séries pour analyser les maladies de Hodgkin, voire essayer de nouveaux traitements et avoir la satisfaction de trouver que le taux de guérison qui était en 1964-1965 de l'ordre de 15% était devenu à la fin des années 70 de presque 70 à 80%. Donc c'est une espèce d'immense aventure qui s'est construite simultanément de part et d'autre de l'Atlantique. On prenait l'avion pour se voir les uns les autres plusieurs fois par an, on discutait, on lançait des essais, et dans cette espèce d'atmosphère bouillonnante, constructive, où des centaines de gens étaient passionnés par l'aventure que l'on vivait ensemble, on a eu des résultats surprenants.
Alors je note que le cancérologue que vous êtes parle de guérison de cancer et non pas de rémission, qui est pourtant un terme quand même bien différent.
Il faut faire une distinction entre les deux. Je vais tout de suite prendre deux chiffres qui vous aideront à comprendre. En 1951, quand je suis arrivé à Villejuif, 3 ans après le traitement, il n'y avait que 25% des malades qui survivaient. Quand j'ai quitté Villejuif, en 1990, disons, eh bien à ce moment-là, 75% des malades, on était passé de 25% à 75%, étaient vivants en rémission apparente 5 ans après traitement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous guéris, car certains de ces malades ont présenté ensuite des rechutes, des disséminations métastatiques, et au total sont guéris définitivement environ 55% des malades. Mais là, je vous pose la question, est-ce que vivre pendant 20 ans une vie normale, pouvoir élever ses enfants, ça n'est pas déjà un beau résultat? Donc quand on parle de rémission, il ne faut pas lever le nez en l'air en disant ça n'est qu'une rémission. Si cette rémission vous donne 10, 15 ou 20 ans de vie normale, si on a le temps d'amener sa famille à un moment où elle est protégée, si on a le moment où on peut réaliser ses buts, eh bien c'est déjà une vie qui est bien remplie, qui a été utile. Et ces 15 ans qu'on a donné ou ces 20 ans qu'on a donné aux malades n'ont pas été 20 ans perdus.
Alors, en lisant votre livre, on a l'impression que s'il fallait établir un ordre de priorité concernant les cancers, mieux vaut les éviter, hein, avec la prévention plutôt que de les traiter. En tout cas, c'est un des combats que vous avez menés, c'était la prévention.
Sûrement, et dans tous les domaines, il vaut mieux prévenir que guérir, selon le vieil adage. Alors, pour moi, une de mes spécialités, hélas, était de traiter le cancer du poumon. Et il n'y avait rien de plus affligeant, de plus désespérant à cette époque-là, dans les années 60-70, que de traiter les cancers du poumon. Car hélas, on essayait toutes sortes de nouveaux traitements, toutes sortes de nouvelles stratégies, les malades mouraient inéluctablement et on n'arrivait même pas à prolonger leur durée de survie. Et au milieu de ce désastre annoncé, en serrant dans ses bras les enfants ou les conjoints des malades décédés, je me suis dit, mais quel gâchis! Ce cancer du poumon que nous n'arrivons pas à guérir, il est si facile à éviter. Il suffit de ne pas fumer. 95% des cancers du poumon sont dus au tabac. C'est comme ça qu'en 1975, j'ai décidé de consacrer une partie de mes efforts, en dehors de mes heures de travail, à la lutte contre le tabac. J'ai eu la chance de pouvoir persuader Madame Veil de la nécessité de ce combat. Elle a eu le courage de l'entreprendre et nous voyons aujourd'hui le résultat. L'incidence de nouveaux cancers du poumon diminue tous les ans chez les hommes. Et le succès est manifeste. Hélas, ça n'est pas la même chose chez les femmes, où au contraire, chaque année, le nombre de cancers du poumon augmente, parce que les femmes se sont mises à fumer à peu près en 1968-1970, et maintenant, avec 30-35 ans de recul, on voit les conséquences de ce tabagisme. Alors j'espère beaucoup que les femmes vont comprendre à leur tour que le tabac est un horrible poison et qu'il faut qu'elle cesse de fumer. Je passe très souvent devant le lycée Fénelon, puisque j'habite pas loin du lycée Fénelon, et je vois ces fillettes agglutinées les unes aux autres, cigarettes à la bouche, tout heureuses de fumer et de plastronner dans la rue en fumant. Et je me dis qu'hélas, si elles continuent à fumer, bon nombre de ces filles, au moins une sur quatre, mourra d'un cancer du poumon. Et qu'elle mourra d'un cancer du poumon, souvent avant d'avoir fini d'élever ses enfants, avant d'avoir achevé sa vie familiale. Donc, il y a là un combat à mener, et moi qui aime les combats à mener, j'ai été très heureux de mener celui-là.
Professeur Tubiana, notre émission va bientôt se terminer. Alors bien sûr, on pourrait passer beaucoup plus de temps sur votre livre, puisque comme je le disais au début de cette émission, les sujets que vous évoquez hein, dans ces mémoires sont aussi variés que passionnants, que ce soit votre enfance à Alger, vos études à la fac de médecine à Paris, quand vous arrivez à Paris, et également la période de guerre, et après, bien sûr, ces années, pendant 30 ans où vous travaillez à l'hôpital Gustave Roussy. Pour terminer cette émission, nous pourrions parler de vos réflexions qui occupent le dernier tiers de votre ouvrage concernant justement cette peur, vous dites, hein, de la science, une réticence de la science. Et vous parlez des Français. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez au niveau européen ou typiquement français, cette peur de la science, du progrès ?
Ça n'est pas typiquement français. Ça touche de façon générale la plupart des pays industrialisés. Mais c'est particulièrement violent en France. Cette réticence anti-science qui a été le fait d'une espèce de petit groupe d'écologiquement corrects qui prônent la méfiance vis-à-vis de la science, la méfiance vis-à-vis de la technique, ça c'est assez typiquement français.
Vous faites référence aux OGM par exemple ?
Que j'ai été ravi de voir la déroute aux élections de ces chantres de l'anti-science et que j'espère que les Français sont en train de se ressaisir, qu'ils comprennent que la raison et sa fille la science sont là pour permettre d'affronter l'avenir et de relever les défis du 21e siècle qui sont graves mais qui ne sont pas plus graves que ceux que l'étaient les défis du 20e siècle et que nous avons tous les moyens de pallier, par exemple, à la crise de l'énergie, au changement de climat, à la surpopulation, puisque nous allons vers un monde où il y aura entre 9 et 10 milliards d'habitants. Donc,
en même temps.